je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Souvent imité, jamais égalé, dit-on souvent à propos des préparations culinaires qui ont marqué l'histoire. Dans un monde capitaliste ultra concurrentiel, les fabricants ont tout intérêt à soigner leur avantage compétitif et peaufiner le caractère unique, ou en tout cas prétendument unique, de leurs produits. De quoi le récit de cette authenticité est-il le nom? Comment les secrets de fabrication font-ils le mystère d'une marque? À quel point ces informations sont-elles réellement sensibles et confidentielles? Et si oui, comment sont-elles protégées? Comment le secret industriel et le brevet fonctionnent-ils? Dans cette série sur les secrets de fabrication, nous allons plonger dans différents cas pratiques afin de comprendre les liens intimes entre alimentation et concurrence. Un jour, une jeune femme prépare une poitrine de bœuf pour le dîner. Elle en coupe les extrémités avant de la placer dans un plat à rôtir. Sa fille, qui la regarde avec intérêt, lui demande la raison. Sa mère réfléchit, puis répond « Tu sais, je ne sais pas trop. J'ai toujours vu ma mère faire de cette manière. Appelons grand-mère et demandons-lui. » Elle téléphone à sa mère et lui demande pourquoi elle coupe toujours les extrémités de la poitrine de bœuf avant de la faire rôtir. La grand-mère réfléchit un moment, puis répond « Tu sais, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai toujours vu ma mère faire de cette manière. » Intriguées, toutes trois décident d'aller voir l'arrière-grand-mère dans sa maison de retraite. Elle demande en cœur « Tu sais, quand nous faisons de la poitrine de bœuf, nous en coupons toujours les extrémités avant de la faire rôtir. Quelle en est la raison ?»«
Je ne sais pas pourquoi vous le faites, » répond la vieille femme. « Si moi je le faisais, eh bien c'est parce que je n'ai jamais eu de plat assez grand. »
Cette histoire, on peut la lire sous la plume de la psychanalyste et psychologue Cathy Saada dans un article intitulé « Faire sa cuisine » publié dans la revue universitaire La Clinique Lacanienne. Si la recette de cuisine suffisait, tout le monde serait cordon bleu. Qu'est-ce qu'on ajoute dans le processus énoncé pour que la sauce prenne, pour que le plat soit bon? Combien de plats ratés avant d'en réussir un, poursuit-elle. L'alchimie entre les ingrédients est multiple. Avec les mêmes éléments, on peut faire une multitude de gâteaux. Si on bat les blancs des œufs ou pas, si on fait fondre le beurre ou si on le travaille avec le sucre. En fait, cuisiner, c'est jouer de l'imaginaire et des signifiants pour créer du nouveau, conclut Cathy Saada. Mais après des siècles d'inventions culinaires, peut-on continuer à créer du nouveau avec tout en cuisine? Prenons par exemple un très vieux dessert comme le riz au lait. On trouve des premières traces de riz cuit au lait sucré en Asie centrale, notamment chez les Mongols. Au XIIIe siècle, le concept de potage de riz bon pour la santé arrivera jusqu'en Europe occidentale. On retrouve alors également le riz au lait en Inde et dans les cuisines arabes du Moyen Âge. Mais le riz au lait tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tant que dessert donc, voit plutôt le jour au XIXe siècle. Et les variantes sont nombreuses. Il y a le riz à la Condé, un riz au lait avec du beurre et un jaune d'œuf, souvent servi avec des pommes et des poires cuites. Ou encore le riz à l'Impératrice, un riz dans lequel on a ajouté de la meringue et des fruits confits. Devant ces multiples riz au lait, était-il encore possible d'imaginer une nouvelle version qui marquerait les esprits? C'est le pari relevé par Stéphane Jégot, chef au restaurant L'Ami Jean dans le 7e arrondissement de Paris.
Je m'appelle Stéphane Jégot, je suis propriétaire du restaurant L'Ami Jean, rue Malard, qui est Paris 7e. Voilà, c'est une vieille institution basque. Enfin, on va dire basque parce que l'identité à l'origine était basque. Et depuis maintenant pas loin de 20 ans, ben, on œuvre dans cette institution pour faire une multitude de choses, dont le riz au lait.
Au micro de Bouffon, Stéphane Jégot raconte la naissance de ce dessert, dont la création a été motivée par un souci d'optimisation du temps passé en cuisine.
Bah, l'histoire est simple, c'est que quand j'ai commencé l'Ami Jean, on avait des problèmes de riz, c'est qu'on était tout le temps complet, comme maintenant d'ailleurs. Et j'avais créé un dessert qui ressemblait un peu à un dessert campagnard breton, où il y avait des pommes, des poires, des fruits secs, une belle crème fraîche bretonne, flambée au calvados. C'était dans des gros caquelons, ça marchait du tonnerre, ça flambait en salle, c'était gourmand. Mais arrivé un moment, on a été victime de notre succès et j'arrivais plus à éplucher les pommes et les poires. Voilà. C'était devenu très compliqué de fournir ce dessert. Donc je me suis dit, il faut que je trouve, et j'ai réfléchi à quelque chose d'aussi gourmand, aussi généreux. Et quand tu vas le manger, ça va faire waouh. Et donc, j'ai créé les riolets comme ça. On va dire ce riolet-là, par hasard, en claquant des doigts, parce que je me suis redescendu un matin. J'ai dit, voilà, il faut qu'on fasse ça, ça et ça. Donc, je suis parti sur un caramel au beurre de micelle, comme on a en Bretagne, qui s'appelle les chichis à Quiberon. Donc, beurre de micelle, c'est vraiment une tradition bretonne, on va dire. C'est vraiment très gourmand. C'est ce petit côté caramel, ce petit beurre de micelle. C'est vraiment très savoureux. Et on a cette nougatine de la fête foraine que j'aime beaucoup, là. L'idée du gros chaudron où, là, tu mélanges et tu mélanges. T'as les senteurs de caramel, t'as les amandes et tout ça. Ça fait comme une nougatine. Donc, je suis parti là-dessus. Et puis, après, un riolet classique. Alors, j'ai fait attention surtout de pas reproduire le riolet qu'on faisait avec Monsieur Candebord à la régalade, qui était un riolet au caramel, où on cuisait le riolet dans un poêlon classique avec vanille, lait et riz, bien entendu. Et on le mettait après dans une plaque avec du caramel. Donc, j'ai fait très attention surtout pas reproduire ça, parce que c'était extraordinaire, c'était magnifique. Mais on ne reproduit pas les choses, on essaye de s'approprier les choses. Donc voilà, tout simplement. Et après, c'était comment arriver à faire en sorte que le riz au lait soit aussi gourmand, crémeux, généreux. Donc après, je me dis, tiens, il faut qu'on l'essaye. On va le monter avec une petite crème montée non sucrée. Mais quand tu associes les trois, c'est là que la magie opère. Parce que tu as un caramel au beurre de micelle qui est magique. Tu as une nougatine qui est extrêmement gourmande, croquante, qui se fie à elle-même, qui est aussi magique. Tu as un lait, un riz rond et une gousse de vanille. Voilà, tout simplement, et ça se fait le riz au lait. Et pour opérer cette magie, il fallait l'habiller. Il fallait lui mettre un beau costume. Il fallait qu'il y ait du standing un petit peu. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans un bol, un peu grand-mère, un bol un peu écolier, avec une cuillère en bois, et deux verres où tu as la nougatine et le caramel, qui est habillé également. C'est un petit peu comme si tu mettais des belles chaussures et un beau nœud papillon, et puis que tu allais à l'opéra, tout simplement. Et puis là, quand tu arrives à la fin de ton repas, où tu n'as plus faim, quand tu vois ça arriver, ben, l'interprétation et l'habillage, justement, fait que tu dis, tiens, t'es interpellé. Et c'est comme ça que le riolet est né.
C'est aujourd'hui une recette culte, Rive Gauche à Paris. Le riolet de Stéphane Jégot est de ceux qui font aimer ce dessert, même au palais récalcitrant. Est-ce grâce à sa nougatine, sa mousse de caramel, ou tout simplement ce riz onctueux dans lequel vient se fondre la crème fouettée? Une chose marque à propos de ce riolet, c'est son côté « reviens-y ». Quand je l'ai découvert il y a plusieurs années au restaurant de Stéphane Jégot, je me souviens avoir comparé l'effet produit par ces cuillerées de riz sur mes papilles à celui de chips. Le parallèle peut sembler vulgaire, mais vous savez quand vous en mangez une poignée et que vous pensez déjà à celle d'après? Eh bien, le riz au lait de Stéphane Jégot fait le même effet. Stéphane Jégot explique d'où vient le côté « reviens-y » de ce riz au lait avec son fondant et son salé.
Ce qui fait le reviens-y, c'est surtout la gourmandise des trois éléments. Donc, tu as le beurre de micelle qui va titiller le palais. Tu as également ce riz qui est très généreux, très gourmand, qui fond sous la bouche et surtout qui a cette légèreté. Alors, le côté reviens-y, c'est que l'ensemble des trois compose une saveur et un goût qui est assez unique. Donc, c'est pour ça que tu es obligé d'y revenir. C'est que ça te titille les papilles avec la nougatine, ce côté sucré, croquant, crispy. Ce beurre de micelle qui va justement te réveiller tout ça, et la rondeur et le côté vanillé qui va te dire, voilà, non, il ne faut pas que je laisse passer la prochaine bouchée.
Disons-le, ce riz au lait en fait délicieusement trop. Avec sa nougatine et son caramel au beurre salé, ce dessert est clairement dans la séduction des papilles. Et si vous êtes un puriste du riz au lait et que vous en appréciez surtout le discret équilibre, vous pourriez être surpris par le côté exubérant de ce riz au lait. Mais cet excès, c'est précisément ce qui en fait le succès international.
Il a fait son bout de chemin parce qu'il a quand même été élu dans les 10 meilleurs desserts au monde. Et non pas dans les 10 meilleurs riolets, les 10 meilleurs desserts au monde. Et ça, c'était Vanity Fair Monde qui a décidé de faire un sondage mondial pour savoir un peu quel est le dessert préféré dans le monde entier. Et on est arrivé dans les 10 meilleurs desserts au monde. Alors pourquoi? C'est vrai qu'on a une très grosse clientèle internationale. Et c'est vrai que cette clientèle nous a publicité par rapport justement à ce riolet. C'est assez drôle parce que bon, la Mijan, 7e, petit bistrot de quartier, au pied de la Tour Eiffel, quelque part, le riz au lait, et donc voilà, dans les 10 meilleurs desserts au monde. À côté de grands noms, hein, Cédric Grolet, Pierre Armé, il y avait deux chefs japonais extraordinaires, enfin, que des big, big, big stars. Voilà, c'est comme si un peu la chansonnette qu'on chante à la Mijan était reconnue à côté des Rolling Stones, tout simplement.
Le succès du riz au lait de Stéphane Jégot ne tient pas qu'à sa saveur absolument régressive. L'autre de ses caractéristiques, c'est son dressage familier et rustique.
C'est ce côté gourmand, ce côté enfantin. Je voulais interpeller. Pendant des années, quand on emmenait une assiette à table, quand on avait une cocotte, je ne sais pas, ça pourrait être une cocotte de cochon, enfin même un poisson, on minimalisait la cocotte dans l'assiette. Et là, ça arrivait à table. Donc le client était surpris. Tout de suite, ça interpelle. Donc là, on avait un discours avec le client, bon, c'était tout un jeu. Et quand le riolet arrive, quand tu vois justement arriver cette planche en bois, ce bol, enfin, etc., ça reste interpellant. Et c'est ça aussi qui fait cette magie. C'est tous ces détails qui font la magie.
Pour comprendre ce qui plaît autant dans ce dessert, j'ai voulu joindre une des nombreuses personnes qui en parlent sur Internet. Stéphanie tient le blog comme un coq en pâte. Je l'ai appelée pour qu'elle nous parle de ce riolet qu'elle affectionne tant et auquel elle a consacré un poste.
Je m'appelle Stéphanie et en fait, je suis connue sous le nom d'un modeste blog comme un coq en pâte.fr et c'est un blog qui rassemble des recettes gourmandes, à la fois sucrées et salées, avec des niveaux de difficulté différents. Et je fais ce blog vraiment par pure passion de la cuisine et pour le partage.
Stéphanie nous raconte la première fois où elle a mangé ce riolet chez l'ami Jean.
Je suis parisienne et étant évidemment gourmande, j'aime beaucoup aller au restaurant, trouver des bonnes adresses, etc. Et là, j'avais découvert, par l'entremise d'amis, le restaurant L'Ami Jean. Et tout le monde m'avait parlé de ce fameux riolet. Donc, je l'avais goûté à cette occasion-là, entraînée par mes amis qui l'avaient déjà essayé. C'était il y a assez longtemps, peut-être une quinzaine d'années. Et j'en garde un souvenir ému, ce qui m'a marqué. Alors d'abord, c'est un dessert qui est très, très gourmand, qui est très, très bon. Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Si tout le monde en parlait et voulait en reprendre, c'est que voilà, ils avaient une première bonne expérience. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, au-delà du goût, c'est que c'est un dessert qui est présenté dans un grand contenant. Je ne me rappelle plus si c'est une terrine ou un grand saladier. Et évidemment, tout le monde est invité à tremper sa cuillère dans ce contenant et c'est vraiment un dessert à partager. Donc, même si vous l'avez pris pour vous, forcément, en l'ayant goûté, vous aurez envie de le faire partager à vos amis, aux personnes qui sont autour de la table avec vous. Et une fois qu'elles auront plongé leur cuillère dans ce riolet, ils auront certainement envie d'en reprendre un petit peu. Alors moi, en plus, je suis pas très fan du riolet, comme je le dis sur mon blog d'ailleurs. C'est pas un dessert qui me rappelle du tout mon enfance. On mangeait pas trop de riolet à la maison, plutôt des desserts crème caramel avec de la semoule ou ce genre de choses-là, mais pas trop de riolet. Donc, il n'est pas lié à un souvenir comme ça régressif. Mais c'est quand même un dessert qui est très régressif dans le sens où il est très gourmand. Il y a beaucoup de crème, de chantilly, etc. Et là, c'est un riz au lait qui est revisité. D'abord, il est très léger. Enfin, très léger en apparence parce que évidemment, il est très, très gourmand. Mais il est très léger parce que il y a d'abord la base du riz au lait. Et puis ensuite, il y a une crème fouettée qui est rajoutée. Et il y a aussi une mousse au caramel beurre salé. Et enfin, pour couronner le tout, il y a une nougatine de fruits secs. Donc, c'est à la fois moelleux, croquant. Voilà, il y a différentes textures. C'est vraiment très, très gourmand.
Au tout début, ce dessert à se damner n'était mangeable qu'au restaurant L'Ami Jean. Mais au fil du temps, Stéphane Jégot a partagé sa recette. Une recette qui a évolué année après année, d'où les différentes versions que l'on trouve en ligne aujourd'hui. Nombreuses ont alors été les personnes à essayer de reproduire la recette à domicile. C'est aussi le cas de Stéphanie.
Alors évidemment, après l'avoir goûté, j'ai tout de suite eu envie de trouver la recette. Donc j'ai cherché sur Internet. Moi, j'ai créé mon blog en 2014. J'avais goûté ce riolet bien avant. Donc voilà, dans la liste des choses que je voulais publier, le souvenir de ce riolet a dû revenir et il était dans ma to-do list. Et j'ai trouvé une recette écrite, mais j'ai surtout trouvé une vidéo où il explique la recette. Et je voulais vraiment avoir tous les détails, toutes les petites techniques du chef pour essayer de le reproduire au plus près. Et donc, il explique pas à pas la recette. Quand est-ce qu'il voit que le riz est bien cuit, qu'il est arrivé au bon niveau de cuisson pour arrêter la cuisson, etc. Enfin voilà, on voit vraiment tous les détails. On a plus de détails que dans une recette écrite, bien sûr.
Pour en savoir plus sur la confection de ce riolet, j'ai demandé à Stéphane Jégot lui-même de nous décrire les étapes de cette recette qu'il a assez tôt rendue publique.
Alors, j'ai rendu public il y a très, très, très longtemps. Mais j'ai rendu public bien avant Internet, d'ailleurs. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que... Et tu t'aperçois qu'il y a peu de gens qui arrivent à le réaliser réellement comme on le fait. Pourtant, c'est très simple. C'est du lait, de la vanille, un riz rond classique de chez Classique, nous il vient de l'Aude. C'est le cousin de Christophe Latour, un ami à nous qui nous fournit les légumes, qui dans l'Aude avait une tradition de riz. À un moment, ils ont eu des soucis, c'était une tradition de vin. Après, ils ont eu des soucis, ils ont planté les rizières, et ils ont refait du vin également, mais ils ont gardé le riz. Donc on s'apprivoisait là-bas. Donc c'est du lait, de la vanille, du riz. À côté de ça, c'est un caramel, tout simple, beurre demi-sel, donc sucre, que tu déglaces avec une crème, une belle crème généreuse, gourmande. Voilà, ça fait comme une bavaroise. Ensuite, à côté de ça, tu refais un caramel beurre demi-sel et là, tu mets des noix, des pistaches, des amandes, etc. C'est très simple. Quand tu suis la recette, c'est très simple. Mais à chaque fois, les personnes veulent toujours twister et mettre leur touche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le riolet, la nougatine, le caramel beurre demi-sel et les riolets, c'est des bases. C'est-à-dire que c'est des bases abouties, finies. Mais à partir de ces bases-là, on peut obtenir une multitude de choses. Mais quand tu commences à bouger les bases, eh ben, tu n'arrives pas à reproduire ce que tu veux. C'est que tu as déjà modifié les choses. C'est qu'il faut garder les fondations pour monter l'immeuble. Alors, il commence déjà à bouger les fondations pour monter l'immeuble. Donc, ça ne fonctionne pas. Tu vois, c'est ça la particularité, justement.
Stéphane Jégot raconte qu'il est tombé récemment sur la vidéo d'un chef cherchant à reproduire le riolet de la Mijan.
C'est vrai qu'il y avait un chef qui a voulu reproduire justement la recette et d'entrée, tu vois qu'il s'est planté. Pourquoi ? Parce qu'il a remodifié, il a amené un côté crémeux qu'il ne fallait pas au départ. Il a pris ça à l'envers pour mettre sa touche. Et c'est ça justement. On ne doit pas mettre la touche, on doit faire la recette et ensuite faire ce que tu as envie de faire avec.
J'ai donc demandé au chef de nous parler de l'erreur la plus communément commise dans la préparation d'un riolet.
Souvent, l'erreur majeure qui est faite, c'est que le riz n'est pas assez cuit. Et ça, c'est vraiment important. Il faut que le riz s'écrase sous les doigts. Il faut que cette petite boule de riz que vous avez s'écrase dessus. Quand vous faites du saké, vous polissez le grain de riz. Et là, vous obtenez le saké. Et là, le riolet, il faut que tout ce qui enrobe la pellicule soit cuite. Et quand vous écrasez, qu'elle n'existe plus. Et ça, par contre, c'est un petit secret qui est très, 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 très important.
Stéphanie, du blog Comme un coq en pâte, raconte les réactions de ses convives lorsqu'elle leur sert le riolet de la Mijan.
Généralement, tout le monde est vraiment hyper enthousiaste. En fait, ils voient un riolet arriver. Alors effectivement, il y a ceux qui sont fans et ceux qui le sont un peu moins comme moi au départ et qui sont toujours hyper surpris par les premières cuillères qui sont vraiment très moelleuses, très gourmandes. Généralement, ils se resservent d'ailleurs. J'ai jamais eu de personne qui m'a dit qu'il n'aimait pas. Les seules personnes qui n'en ont pas mangé, c'est... des personnes qui étaient allergiques à des fruits secs ou ce genre de choses-là. Mais sinon, tout le monde adore ce dessert. Il réunit vraiment tout le monde, les petits, les grands. Alors, c'est très riche. Donc, c'est vrai que quand je le fais, je pense à mon menu en fonction du dessert. Je vais plutôt faire un plat avec des légumes, un plat un peu plus léger pour éviter de manger deux fois des féculents dans le repas. Donc, voilà, c'est autour du dessert que tourne le reste du repas.
Sandra, du blog Encore un gâteau, qui répertorie un grand nombre de recettes sucrées, est elle aussi fan de riolet. Avec son CAP pâtisserie, Sandra est toujours très avide de découvrir de nouvelles recettes.
La revisite du riolet par le chef Stéphane Jégot consiste en l'ajout, après cuisson du riz rond dans le lait et après refroidissement, d'une certaine quantité de crème liquide montée en chantilly. Donc, pour les pâtissiers qui nous suivent, plus exactement de crème fouettée, puisque la chantilly ne s'appelle chantilly que quand il y a eu du sucre d'ajouter, et là, il n'y en a pas. Donc, le but de cet ajout, c'est d'alléger la texture du riolet, de la rendre plus mousseuse, plus légère, d'y apporter une note de gourmandise supplémentaire.
Sandra le rappelle, il y a plein de curseurs sur lesquels on peut jouer pour faire un riolet.
En jouant sur les textures, si vous mettez plus ou moins de riz et plus ou moins de lait, vous allez avoir un riolet plus ou moins onctueux, plus ou moins dense. La quantité de sucre aussi joue les épices, parce que on peut mettre une gousse de vanille, mais on peut aussi mettre de la cannelle, de la fève de tonka, des zestes d'agrumes, on peut faire plein de choses. Donc je trouve que c'est toujours intéressant de tester ces revisites et de voir la recette qui nous procure le plus de plaisir, celle qui pour nous évoque le plus de gourmandise. Il y a des chefs également qui utilisent du lait demi-écrémé, d'autres qui vont mettre moitié lait, moitié crème. Tout ça, ça va jouer sur la texture finale du riolet, le rendre plus ou moins gourmand, plus ou moins onctueux ou dense.
Ce qui semble unique dans le riolet de la Mijan, c'est sa composition, accessible à travers les recettes partagées, mais aussi le tour de main, celui de Stéphane Jégot. Mais que se serait-il passé si Stéphane Jégot avait eu envie de commercialiser à grande échelle son dessert ? Comment se serait-il assuré d'être l'unique détenteur de la recette ? C'est, avec ces questions, le concept de secret de fabrication que l'on touche du doigt. Une idée phare quand on parle de commerce et d'industrie. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Bouffon. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Mathilde Jonin et Diane Le Sieur. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.